À toutes, vous écoutez Ouvre-la, une émission de jeunes. Comme d'habitude, on est dans les studios de Radio Cause Commune en live. On est aujourd'hui du coup le 25 janvier, c'est le dernier dimanche du mois. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, on n'est ni diffusé en direct sur internet, ni en DAB, on est uniquement en FM 93.1.
À Paris et dans toute la région parisienne.
Voilà.
Une partie de la région parisienne, la petite couronne, on peut dire.
Voilà, on est malheureusement à cause de quelques problèmes techniques, mais bon, c'est pas grave, on va quand même bien s'amuser.
C'est internet qui est coupé.
C'est ça, voilà. Alors, comme d'habitude, j'anime l'émission en compagnie de mon père. Salut.
Bonjour.
Voilà, vous avez été très déçus et vous nous l'avez fait savoir. Effectivement, il n'y a pas eu d'émission de décembre. Pour raison de fête de fin d'année.
Et bonne année donc.
Et du coup, bonne année. On repart pour une
heure. L'épiphanie s'est bien passée.
Voilà, les crêpes.
T'as eu la fève ?
Ah non, pas les crêpes.
La crêpe, ce sera un peu plus tard.
Un peu plus tard.
Chaque chose en son temps.
Oui, bah alors moi j'ai eu la fève à la cantine, figure-toi. Ah.
Et voilà. Alors c'est la dame de la cantine qui a été la reine ?
Ouais, on a tous été les rois et les reines. Ils avaient beaucoup de couronnes.
Cœur sur tous.
Voilà. Donc, bonne année. On repart pour une heure tous les derniers dimanches du mois sur des sujets qui concernent les jeunes.
C'est quoi les jeunes pour toi ?
Les jeunes pour moi, c'est toutes les belles filles et tous les beaux garçons.
Ça y est, t'assumes plus.
C'est bon, j'assume plus. Non, bah, c'est quoi les jeunes ? C'est tous ceux qui écoutent cette émission et même tous ceux qui l'écoutent pas. Hein.
D'accord.
Voilà.
Donc une définition large.
Exactement.
C'est bien. Moi, ça me fait me sentir jeune.
Ça te fait te sentir jeune.
Qu'est-ce que t'as au sommaire pour cette émission de jeunes ?
Alors aujourd'hui, on va être très école. D'abord, on va parler un peu ministre. On va parler d'Edouard Geffray, l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Donc à la fois qui il est, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, parce qu'on commence à parler d'école au niveau budget.
Edouard qui ?
Édouard Geffray.
Jamais entendu parler. Le deuxième sujet, c'est quoi ?
Deuxième sujet, un sujet qui stresse beaucoup de terminales. Moi aussi, hein, d'ailleurs, l'ouverture de la plateforme Parcoursup, sur laquelle on fait nos voeux pour les études supérieures.
Oui, on a passé un bon moment tous les trois avec ta maman hier.
Voilà, on en parlera en deuxième partie. Et pour finir, en fonction du temps, un sujet un peu plus... expérimental, un peu moins préparé aussi, sur la structure sociale au lycée.
La structure sociale au lycée, ok.
Voilà.
Ok.
Je vais parler un peu de mes cours de SES.
On peut rappeler que t'es lycéen quand même.
Ouais, je suis lycéen en terminale. Là, Parcoursup, je suis en plein dedans, par exemple. Et j'ai, on va dire, une expérience scolaire qui commence à. Bah, ça fait 14 ans que je suis à l'école, quoi, quand même. Voilà. Du coup,
On y va, premier sujet, vas-y, c'est toi qui maîtrises le temps, c'est toi qui maîtrises l'émission.
Du coup, Edouard Geffray, peut-être que vous en avez pas entendu parler, ou peut-être que vous voyez vaguement qui c'est le ministre de l'Éducation nationale actuel, il a un œil plus gros que l'autre, si ça vous permet de voir qui c'est. Concernant un peu sa biographie, c'est pas très intéressant, hein. Il a un parcours assez classique de haut fonctionnaire, il a fait un lycée dans le 8e, puis Paris-Sorbonne, Sciences Po Paris, et enfin l'ENA, et il rejoint à la sortie de l'ENA le Conseil d'État, donc on peut dire un parcours assez classique qui va l'amener du coup en 2012 à être nommé directeur des affaires juridiques internationales et de l'expertise, puis secrétaire général jusqu'en 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc quelqu'un qui travaillait au gouvernement pas forcément sur le devant de la scène. Et en 2017, il est nommé directeur du cabinet du ministre de la Justice, qui était François Bayrou à l'époque, donc déjà assez proche dans les sphères de pouvoir, quoi. Et après, nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est là que ça commence à nous intéresser. Il a travaillé du coup depuis 2019 à l'Éducation nationale, du coup, et directeur général de l'enseignement scolaire. Donc vraiment. C'est un sujet qu'il connaît et sur lequel il bosse. Il était à ce poste d'ailleurs du coup de directeur général de l'enseignement scolaire sous Jean-Michel Blanquer. Du coup, c'est lui en partie qui a géré le Covid, mais il a surtout bien bossé sur la réforme du bac. C'est en partie.
Oui, Blanquer, c'était son travail. Il y a quelques années le ministre de l'Éducation nationale,
Très controversé. Pour toutes les coupes budgétaires qu'il a fait, pour la réforme du baccalauréat, pour Parcoursup aussi, justement, dont on va parler.
Et on se souvient qu'il avait provoqué des grosses, grosses manifestations de la part des profs.
C'est ça, à l'époque. Moi, je m'en souviens, alors j'étais en primaire, la primaire était bloquée limite un jour sur deux. Et on détestait tous Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs. Outre le fait qu'il nous faisait rater des cours, on nous disait surtout c'est à cause de lui qu'on n'a pas de profs remplaçants, quoi. Après Jean-Michel Blanquer, il est resté justement à l'Éducation nationale avec un autre ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. C'est lui qui a dû gérer la brillante idée en fait de Gabriel Attal de faire des groupes de besoins. Tout ce projet-là de faire des classes selon le niveau, en fait, ça a été lui qui a dû gérer ça.
C'était au collège, ça.
C'était au collège notamment, et notamment dans les collèges prioritaires. Et du coup, personnellement, moi, j'en ai entendu parler pour la première fois le 12 octobre 2025, quand il a été placé en ministre de l'Éducation nationale pour le second gouvernement Le Cornu. C'est probablement la première fois que vous en avez entendu parler aussi, parce qu'il n'était pas forcément sur le devant de la scène jusque-là. Et du coup, à l'époque...
Alors, personnellement, la première fois que j'en entends parler, c'est cet après-midi avec toi.
Voilà. Et du coup, quand il a été nommé, les profs, ils allaient déjà, parce que il était très marqué pour eux par... Jean-Michel Blanquer, et à raison, la première chose qu'il fait, c'est annoncer la suppression de 4000 postes de profs, notamment au collège et au lycée. Bref, donc c'est un fonctionnaire de droite assez banal, un haut fonctionnaire, mais qui a pas mal d'expérience au niveau de l'Éducation nationale. Petit fun fact, parce que je suis allé du coup sur sa page Wikipédia, en 2021, il avait... non, pas du tout en 2021, en 2024, il avait candidaté pour devenir le président de Sciences Po Paris. Finalement, ça n'a pas lui qui a été choisi. Voilà. Donc très proche.
Et finalement, il est ministre. Comme
finalement,
quoi,
il est ministre. Voilà, hein, c'est bien aussi. Mais bon,
il n'y a pas d'échec, souviens-t'en, pour quand tu ne seras pas pris dans ce que tu voulais.
Oui, mais bon, ministre sous le cornu, c'est job d'été, quoi.
Job d'été.
Mais du coup, depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, il fait un peu parler de lui, hein, notamment parce que là, on se met à parler budget de l'Éducation nationale et avec des propositions qui sont un peu dans la vibe de François Bayrou et de Sébastien Lecornu, avec beaucoup de baisses dans l'argent investi dans l'école.
Budget, ouais.
Voilà. Je vais faire un peu une liste des mesures qu'il propose, hein. Il y a une baisse de 54 millions d'euros pour le renouvellement des manuels scolaires. Et l'argument qu'ils ont donné, c'est si deux manuels doivent être renouvelés pour la classe de 5e, le ministère estime que l'un des deux renouvellements peut être fait avec ce qui est déjà dans les écoles. Donc on n'a pas besoin d'en racheter, finalement, on utilise ceux des anciens programmes. Je trouve ça assez drôle parce que quand même...
Donc le même ministère qui fait évoluer les programmes tous les 4 matins,
il dit,
décide que vous avez qu'à apprendre avec des manuels qui...
que vous avez déjà.
Et qui sont plus à jour le nouveau...
C'est ça, qui sont plus à jour, ou sinon ils disent c'est un manuel pour deux élèves, etc. Donc effectivement...
Oui, le lundi c'est moi qui fais les devoirs et le mardi c'est mon copain, ouais.
Ça
marche comme ça, c'est...
Voilà, aussi, bon, bah, comme je viens d'en parler, la suppression de 4000 postes de profs, ça c'est justifié par la baisse de la démographie. Effectivement, il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles. Mais bon, il y a déjà pas assez de profs, en fait. Aujourd'hui, on a plein de profs qui sont pas remplacés. Et justement, ils parlent de faire baisser le budget de la brigade de remplacement. Donc, on est vraiment, déjà qu'on est dans une pénurie de profs, notamment dans les petites écoles. Ça ne va pas mieux et ça va créer en fait des fermetures de classes et du coup d'autres classes qui vont être surchargées. Un truc qu'on pourrait un peu dire positif, la création de 1200 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, donc les AESH. Cette nouvelle hausse, c'est bien, hein, mais bon, il y a un besoin qui est énorme. Fin octobre 2025, c'était 36 000 enfants qui bénéficiaient d'une notification AESH, qui étaient en attente d'attribution, donc qui n'en avaient pas et qui en avaient besoin. Donc bon, 1200, c'est bien, mais bon, ça fait qu'il en reste quand même 35 000, quoi. Et puis du coup une baisse du budget dans à peu près tout, du coup les brigades de remplacement, un renoncement à des aides pour les 15% des collèges les plus défavorisés et j'en passe. Et en fait c'est là qu'on comprend que pourquoi il se fait un peu discret Edouard Geffray, il se fait un peu discret parce que bah effectivement, c'est juste un haut fonctionnaire qui applique le programme qu'on lui a dit de faire. On lui a dit coupe dans les dépenses, qu'est-ce qu'il fait ?
Le programme politique, hein, pas le programme scolaire.
Non, le programme politique, évidemment. Et on va dire qu'il connaît son sujet, hein, ça fait un moment qu'il est dans l'éducation nationale. Mais c'est vrai que là, on lui a dit, grosso modo, tu coupes partout. C'est dommage de mettre quelqu'un qui connaît son sujet juste pour qu'il fasse des coupes. Et c'est pour ça que ces derniers temps, en fait, lui, on en a t'en quasiment pas parlé, même pour les sujets graves. Typiquement, il y avait le suicide d'une élève il y a quelques semaines, dans son collège. Et là, on l'a entendu parler, mais c'était rien de grandiose comme l'était sa prédécessrice, typiquement Elisabeth Borne, qui, elle, brandissait des mesures symboliques, d'ailleurs, dont quasiment aucune n'a été appliquée. Hein. Moi, j'ai essayé de parler, je vous en avais parlé à la dernière émission, des mesures mises en place par Elisabeth Borne et les mesures, typiquement le plan filles et maths pour inciter les filles à faire des maths, mes profs de maths, l'équipe de maths n'en a absolument pas entendu parler. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on préfère pas avoir un ministre qui se tait et qui fait pas grand chose plutôt qu'un ministre qui dit beaucoup de choses mais qui fait rien finalement. Voilà. Et c'est pour ça que ces derniers temps, en fait, on entend beaucoup plus Philippe Baptiste, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lui, il est beaucoup sur le devant de la scène, c'est lui qu'on invite sur les plateaux, à cause des mesures qu'il prône. Hein, vous en avez sûrement entendu parler, la mesure des repas...
Je fais nom de la tête, ça te fait bégayer. Non, j'ai pas entendu parler, il faut que tu m'expliques.
Alors, c'est lui qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup insisté avec une grande fierté sur les repas à 1 euro pour tous les étudiants.
Oui, on a entendu le Parti Socialiste notamment se féliciter de la mise en place de cette mesure.
Le Parti Socialiste en est vraiment félicité, alors que il faut...
Enfin, de la mise au budget.
C'est ça, alors que... Et il faut savoir que... Dans le plan qui inclut ces repas à 1 euro, il y a aussi une coupe de 500 millions d'euros dans le budget de l'enseignement supérieur.
Donc, oui, alors on ne pourra pas payer les profs, mais il y aura du rap de nouilles à la cantine.
C'est littéralement, ils font passer... ils perdent un peu... Enfin, ça coûte un peu plus cher du coup de faire les repas à 1 euro, mais en attendant, il y a moins d'étudiants à nourrir s'il y a moins de classes. Donc vraiment, là, c'est... La pilule qui aide à faire passer les grosses réductions de budget de l'enseignement supérieur, alors qu'on sait qu'aujourd'hui on a un enseignement supérieur qui est une clé en plus de la France, hein, quand même, c'est un peu une de nos forces, mais qu'on est en train de doucement saboter pour essayer de renvoyer les gens vers le privé. Voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant de voir qui c'est Edouard Geffray. Pourquoi ? Parce que si on sait pas à qui se plaindre typiquement sur l'éducation nationale, quand on a des professeurs qui sont soit pas remplacés, soit des professeurs qui nous disent, très honnêtement, qui nous disent typiquement, moi j'ai pas été assez formé, des profs qui ont réussi leur agrégation, mais par contre qui n'ont pas eu de formation sur comment se tenir avec des élèves.
Ça t'arrive dans quelle matière, par exemple?
Oh, c'est pas une question de matière, c'est ouais. vraiment les professeurs les plus jeunes, notamment.
Ah, ils ont l'impression d'arriver devant vous et de pas avoir assez de pédagogie pour vous enseigner.
Oui, ou en tout cas pas de pédagogie. Des fois, humainement, ils sont très cool, mais c'est plus comment s'adapter à des situations quand on a un élève qui a du mal ou qui arrive pas à suivre en cours. C'est aussi ça de autant ils sont, il y a des profs qui sont très sympas, mais qui on a l'impression qu'ils connaissent très bien leur cours, mais qu'ils savent pas comment nous l'enseigner aussi.
Ouais. Donc ouais, c'est ça qu'on appelle la pédagogie.
C'est ça en fait, que ce soit sur la pédagogie ou des fois même l'humain, des professeurs qui savent pas gérer une situation de harcèlement, qui sont aussi paniqués que nous quand on va venir se plaindre quoi. Et du coup bah voir que finalement les personnes qui sont censées gérer ça, surtout que là on voit bah sur la question du harcèlement typiquement le suicide d'une élève qui émeut un peu tout le monde, voir que finalement il y a assez peu de choses qui sont faites ou en tout cas des mesures très symboliques, savoir à qui se plaindre limite hein, maintenant qu'on sait à qui s'adresser.
Le suicide de cette jeune fille là, c'est quelque chose dont vous avez parlé
Pas du tout justement. D'accord. Typiquement après le suicide d'un élève, et puis on pourrait se dire.
Pourquoi c'était pas dans ton,
c'était pas dans mon lycée. Hein, c'est très loin, c'était très loin de mon lycée, oui. Mais ça reste important et on aurait pu prendre ça comme un choc un peu quoi. Voilà.
Eh ben c'était une belle découverte ce nouveau ministre.
Voilà, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avant de revenir. On va écouter Positive Contact de Deltron 3030.
Brand new statement, I have your gaping open. Check it out, y'all. Now let's see, Deltron Z, Art Avenger. Let's start the adventure. Pinch up with nerve gas, absurd blast. Crash a spacecraft, I'm bio enhanced. Iro advanced series, monstrous evolution. Headed tooth and nail, super trail. Super sleuth, a new race. Mad creator, savage nature. Worldwide web, the ebb and flow. Light years from watchful eyes, where my thoughts provide objective. The ostracized, the pompous prophecies. Underground societies are ought to lead. Asteroid surfing, castor oil burping. The darkest side of humanity animated. The grand awakening, plan to take it in. I demand your patronage, mobilize my battle takes. With cluster small, empty Austin, to empty Mars. Many MCs cruise low Earth orbit. Easier for me to use my search warrant. Drift by a star, absorb it and store it. Leave Taurus, Corvus, my galaxy's gorgeous. Quantum jump, I'm right at your doorstep.
Positive contact. Positive contact. Positive contact.
Even if the record skips, I still wreck. Now I catch more wreck with fast ignition. My last decision, pulse amplification. Temple with napalm, I want y'all to stay calm. Alien annihilation, I stay armed to the grill piece and kill beat. 20% matter, 30% is energy. Assembling to become a living being. Evaporative radiation phase is station. I get high as aviation.
Positive contact. Positive contact.
Reactors on.
Positive contact. Positive contact.
Even if the record skips, I still rip. I rise like helium, you're falling rapidly. Trapped in apathy while I track your speed. I'm what you call a legend, dominance with Armageddon. Gives me a warm reception. Global war with weapons, installation. Blow them to stardust, distance 12 parsecs. Enthusiast phalanx with my literary talents. Just a bit of balance, rip the silence of space. All star systems are our victims. Atomic synonymous with ominous. Implications of inflammation, of information and entertainment. Try to
that dialect, you gotta earn my respect. I'm like Gamera to amateurs, hit them with a cannonball. And in all this confusion, the fusion of music and mind dissipates, translucent illusions. Search the ruins with automator, hit the walls with a carbonator. Hit our missiles, just regenerate. The sonic soldiers allow us to demonstrate emergency dispatch, skyscrapers, rip facts for the impact. They flow is mismatched. My style's protected by heat shield and ceramics. Don't panic, I landed on planet Mercury, gave it atmosphere, set up my headquarters. I'll never get captured here. Trap your tear, clap your ear with soul sonic, mantronic, phonic. Turn your brain to an omelet. I'll hold a comet in bondage with my dominance. Take a space shuttle to escape trouble. Bounce through the Milky Way. Not many MCs feel this way.
Positive contact. Positive contact. Positive contact. Positive contact.
Even if the record skips, I still rest.
Vous êtes toujours en train d'écouter Ouvre-la, une émission de lycéens. On est toujours en direct de Radio Cause Commune, en FM 93 points seulement pour cette fois.
Et oui, il n'y a pas de direct sur le DAB et ni sur, sur Internet en ce moment.
Voilà, petit problème au studio. On était en train d'écouter Positive Contact de Deltron 3030.
Mais quel hip-hop groovy, c'est pas très récent ça.
Non, il me semble, alors j'ai pas la date exacte de l'album, il me semble que c'est début des années 2000.
Ouais, c'est ça, ça me dit quelque chose, moi j'écoutais ça à cette époque-là.
Voilà.
D'où est-ce que tu le déterres?
Bah en fait, je le déterre de mes parents, c'est ça, 30 novembre 1999.
Donc, c'est fou, c'était au siècle dernier.
C'était au siècle dernier, j'étais loin d'être né. Oui, bah, c'est toi et maman qui m'avaient fait découvrir. Et c'est vrai que bah, c'est un album qui est très très cool, Deltron 3030. Du coup, vous m'avez donné des très bons goûts musicaux, en fait. En parlant de goûts musicaux, du coup, toi, t'as une émission?
Oui, dans les mardis, quand il n'y a pas une autre émission. Mmh. Environ deux fois par mois, peut-être un peu plus parfois. Et ça s'appelle Au Suivant. Et avec Nel et Marianne, on se fait écouter ce qu'on a écouté dans la semaine.
Ouais, donc si vous voulez ajouter des nouvelles chansons à votre playlist, s'il n'y a pas de thème particulier, c'est ça ?
Musique.
Donc peu importe ce que vous aimez, je pense
tous
que...
les genres. Et c'est 21h, 22h. Le mardi soir, quand il n'y a pas une autre émission. Ça veut dire à peu près deux ou trois fois par mois.
Voilà. Bon, ben on peut entamer notre deuxième sujet, sujet particulièrement d'actualité, Parcoursup.
Alors,
depuis le 19 janvier, du coup, lundi, la plateforme Parcoursup, qui permet aux lycéens et aux étudiants en reconversion de trouver un établissement d'études supérieures, a ouvert. Donc, c'est une source de stress, en fait, pour beaucoup, les élèves...
Alors, dis-nous à quoi ça sert. Donc, c'est stressant, mais quel est le principe de ce Parcoursup?
Alors, Parcoursup, c'est une plateforme sur laquelle on va, une plateforme sur Internet, sur laquelle on va formuler des vœux pour des écoles, des facs, des prépas, pour des vœux d'école supérieure, du coup.
Des vœux d'orientation.
D'orientation, pour savoir, pour faire quelque chose...
Mais vous n'avez pas encore votre bac?
Non, pas du tout, ça se base. Alors oui, justement, niveau dossier, du coup, on envoie un dossier. Dans notre dossier, il y a quoi? Il y a nos relevés de notes et nos bulletins avec les appréciations des profs de la première, de la terminale, et voire même pour certaines écoles, de la seconde.
Okay.
Et avec une lettre de motivation, du coup, qu'on rédigera.
Donc t'as rédigé tes lettres de motivation ?
Pas encore. Pourquoi ? Alors c'est il y a quelque chose d'assez bizarre sur Parcoursup, c'est la notion de phase. C'est-à-dire que là on est dans la première phase où juste on peut formuler des vœux. Ces vœux-là ils seront envoyés à la mi-mars, fin mars, début avril. Et à partir de là, du coup, nos vœux seront validés, on ne pourra plus les changer. Et on devra, pour chaque vœu, rédiger une lettre de motivation qui sera lue ou pas par l'école qui veut nous recruter.
Bonjour ChatGPT.
Alors, non seulement, et puis surtout, Parcoursup, il y a ce problème-là de... c'est très très opaque comme système. C'est-à-dire que, alors, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, là ça a ouvert, du coup vous prenez votre ordinateur, vous allez sur la plateforme Parcoursup, vous
ça
connectez.
Marche pas.
C'est vrai que du coup, hier soir, moi, toi et du coup bah, ma mère, on a essayé de se connecter pour que je puisse inscrire mes premiers vœux sur Parcoursup. Il se trouve que Parcoursup ne trouve pas mon dossier. Donc apparemment, en plus, c'est un problème assez récurrent qui arrivait déjà les années précédentes. Donc déjà on est sur une plateforme qui il est vrai marche pas forcément. Chaque année il me semble qu'il n'y a pas eu une année où elle a pas planté les derniers jours où on peut formuler des vœux parce que tout le monde se connecte pour valider ses vœux et il y a juste pas une capacité d'accueil aussi grande.
Oui, c'est ça. Si on peut donner un conseil aux auditeurs qui doivent utiliser Parcoursup, qu'ils soient lycéens ou qu'ils soient parents d'élèves, commencez dès maintenant, attendez pas le dernier moment parce que c'est quelque chose de récurrent que d'avoir cette plateforme internet sur laquelle on formule les vœux de l'élève qui plante dans les derniers jours, les derniers soirs là quand on s'y met enfin. Mm-hmm. Donc même si c'est très stressant, même si on a l'impression de pas faire tous les vœux, même si en plus il faut faire un choix parce que t'as le droit qu'à
Justement, c'est ce que j'allais expliquer le fonctionnement. Alors concrètement, on a le droit à 10 vœux et 20 sous-vœux. Et là, c'est quelque chose d'assez technique. 10 vœux, c'est on a le droit de faire un vœu, c'est une formation plus un établissement. Donc typiquement une licence de droit à la fac de Nanterre. Et les sous-vœux, c'est pour certaines formations, vous pouvez demander une formation et un établissement, et selon la formation, typiquement les prépas, vous pouvez demander en sous-vœux d'autres établissements, donc jusqu'à 20 établissements.
Donc je peux demander une formation en droit à Nanterre, et en sous-vœux une formation en droit dans une autre fac.
Eh ben non, parce que ça marche pas sur les licences. Par contre, si vous voulez faire une prépa pour les études, pour, je sais pas moi...
Une cagne.
C'est ça, une prépa cagne.
Cagne, c'est littéraire.
C'est ça, prépa littéraire. Vous pouvez demander une à Paris, une autre à Bordeaux, une autre à, je sais pas, Nice.
Et tout ça compte pour un.
Et ça compte que pour un. Et du coup, bon, déjà, là, il y a une question de... C'est assez hallucinant pour moi, mais... Parce que c'est déjà, ça crée des inégalités, parce que, bon, c'est les prépas, mais ceci, les grandes écoles. Sciences Po, Dauphine, il me semble. Du coup, des écoles qui sont, en général, qui accueillent plus d'élèves de classe supérieure. Et c'est vrai que, du coup, ça donne un peu l'impression que les élèves plus fortunés ont plus de vœux que les élèves qui vont juste demander des licences, quoi. Voilà, et du coup, une fois que ça, c'est fait, que vous avez formulé vos vœux, tous vos sous-vœux, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, vous envoyez vos lettres de motivation... Et là, c'est pareil, un truc d'inégalité. Les grandes écoles lisent, ont des gens qui sont payés pour lire les, pour regarder les dossiers, les lire, lire les lettres de motivation. Alors que pour des formations qui ont plus de demandes, typiquement, et ben dans ce cas-là, on sait que il y a pas de lecture des, comment on dit,
que les lettres de motivation ne sont pas lues.
Les lettres de motivation ne sont pas lues. Ensuite. Je sais pas, tu vas me dire, mais il me semble que c'était déjà le cas avant.
Je sais pas. Très honnêtement, moi, je suis entré en BTS, donc c'était un lycée.
Ok.
Je sais plus si... il me semble que j'avais fait des lettres de motivation pour certaines de mes demandes, et il y en a eu une pour laquelle j'ai été convoqué pour un espèce de concours, en fait. On était... On avait d'abord des rédactions à faire, ils entraient une partie, et puis ensuite on avait une évaluation, on était une vingtaine autour d'une table, et ils nous interrogeaient les uns après les autres. Mmh. Ouais, c'était un peu...
Voilà. Et bah, pour les formations... c'est ça, mais pour les formations comme ça, c'est pour ça qu'aussi il y a de plus en plus d'écoles qui demandent de faire des entretiens, avant, pour les grandes écoles notamment, pour être sûr, pour avoir un vrai tri, etc. Alors que typiquement pour les licences qui vont accueillir plus de gens... mais aussi qui sont plus accessibles, quoi. bah là il n'y a pas tout ce travail, c'est vraiment on a des personnes qui nous disent moi j'ai envoyé une recette de gâteau à ma fac et j'ai été pris quoi. Il y a une élève qui est venue nous parler, qui est rentrée en médecine, et elle a dit pour deux de ses vœux, qu'en fait c'était des vœux qu'on l'avait un peu forcé à faire au cas où, ouais. Elle avait dit surtout ne me prenez pas dans sa lettre de motivation, et elle a été acceptée pour les deux. Donc vraiment on a ce truc très opaque où oui Parcoursup il faut le savoir c'est un algorithme en fait dont on a aucune idée des facteurs de quels facteurs tiennent le plus pour la majorité des formations.
Après j'ai envie de dire peu importe enfin l'important c'est d'aller quelque part quoi.
Alors
c'est d'être formé à quelque chose, c'est d'être curieux et puis de s'intéresser à parce qu'on veut bien nous apprendre, mais quelque part, aller dans une école ou une autre, avoir une formation ou une autre, avec le recul, je suis pas sûr que ça... Ben c'est avec le recul, moi qui ai 40 ans. Hein. Finalement, je suis pas sûr que ce soit déterminant dans la vie qu'on va mener après. Quoi.
Alors oui, mais bon, il y a ce truc de Parcoursup où effectivement, mais une grosse partie des élèves ne sont pas acceptés dans la première chose qu'ils veulent faire. Et c'est pour ça que les statistiques des formations en général, c'est 40% des personnes changent d'orientation après leur première année d'études supérieures. Soit parce que, bon, juste ils n'ont pas eu leur L1 typiquement, soit juste parce qu'ils découvrent que ça ne les intéresse pas, mais aussi parce que des fois, avec Parcoursup, ça rajoute en plus le fait que juste tu n'as pas été accepté dans quelque chose qui t'intéresse. Voilà. Alors, au niveau des notes, c'est vrai aussi, ça c'est un peu... Moi, ça m'a mis un peu de temps à comprendre. Ce qui est pris, du coup, pour le moment dans Parcoursup, c'est les bulletins de première et puis le premier semestre de terminale.
D'accord. Ouais, donc, il faut bien travailler quand même le premier semestre.
Faut bien travailler le premier semestre. Ouais. Et ça, c'est pour la phase 1. Pourquoi ? Parce que si vous êtes pris à rien qui vous intéresse dans les premiers tri de vœux, il y a ce qu'on appelle la phase complémentaire.
Donc c'est quand t'as fait tes 10 vœux. Si jamais t'es accepté dans aucun des 10,
ou qu'il y a rien qui t'intéresse dans les 10, tu passes dans une deuxième phase qui cette fois prend aussi, du coup c'est après le bac il me semble, qui prend tout ce que t'as fait jusque là et qui pareil va te dire qui va vers un nouveau tri. Et dans ce cas là Parcoursup, il y a un truc qui est sûr avec Parcoursup, c'est que normalement, si on fait bien ses vœux, on est forcément accepté quelque part. Le problème, c'est pas forcément ça. Il y a très très peu. Il y a quand même des gens qui s'appellent les sans fac et des gens qui n'ont pas trouvé, en fait, qui ont été acceptés nulle part. Avec des fois des dossiers qui sont bien, hein, 14 de moyenne un peu partout, un bac avec une mention. Mais, c'est pas. Mais Parcoursup a fait que soit t'as mal fait tes vœux, soit juste il y a eu juste t'as pas eu de chance quoi. Et du coup t'as accepté nulle part. Mais dans la majorité des cas, c'est plus juste n'être accepté à aucun endroit d'intéressant. Les professeurs ils insistent beaucoup, ils nous mettent un peu stress là-dessus. Avoir des vœux de secours, c'est-à-dire qu'on demande des choses qui nous intéressent, etc. Et au cas où tu vas demander quelque chose qui te plaît pas forcément. Mais qui ont un taux d'acceptation de, je sais pas moi, 90% pour être sûr d'avoir une fac au cas où.
Donc il y a des filières comme ça qui sont plus faciles à obtenir que d'autres ?
Oui, bah, bien sûr. Quand on parle des formations en prépa, typiquement c'est une classe de 30 élèves. Et ne serait-ce que quand on parle d'une licence, c'est des fois 600 places.
D'accord. Oui, donc même si on demande des grandes écoles... Avoir aussi des... Stratégiquement, avoir aussi au cas où une fac pour assurer d'avoir quelque part...
C'est ça, et notamment
pour... aller apprendre l'année prochaine, quoi.
C'est ça, et notamment pour les élèves qui ont moins de 13 de moyenne, parce que bon, les élèves qui ont plus de 13, eux, ils sont à peu près sûrs de trouver quelque chose. Quand on a moins de 13 de moyenne, c'est vrai qu'on n'est pas sûr d'être accepté quelque part. Et dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des élèves qui, pour le coup, vont faire des formations qui les intéressent absolument pas. Y a ce truc, on a une classe de BTS au lycée, et il y en a une grosse partie qui nous disent « Si tu ne veux pas faire ça, n'y va pas, parce que tu vas juste avoir l'impression de perdre une année de ta vie, voire deux, quoi. » Voilà. Et du coup, comment ça marche une fois qu'on reçoit les vœux ? Alors ça aussi, c'est une grosse source de stress. c'est il y a un classement qui est fait par le soit par les écoles elles-mêmes, soit par l'algorithme Parcoursup. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a je sais pas 100 places dans
la formation, licence, ouais.
Dans la formation. Il y a 1000 personnes qui ont fait le vœu et du coup Parcoursup va classer les dossiers de 1 à 1000. Les 100 premiers vont recevoir une notification sur Parcoursup, vous êtes accepté. Et après, quand on reçoit qu'on a été accepté dans une formation, on a le choix de soit bah, dire oui, je prends ma place, et dans ce cas-là, ça coupe tout le reste, ça refuse tous nos autres vœux, soit de pas y toucher, soit de refuser la formation et de dire je ne veux pas faire ça de toute façon. Laisser ma place à quelqu'un d'autre.
Est-ce que l'ordre dans lequel on s'est inscrit sur la première phase, là, celle qu'on a fait hier, enfin qu'on n'a pas réussi à faire hier d'ailleurs, est-ce que l'ordre dans lequel t'as mis tes formations est pris en compte par l'algorithme ?
Pas du tout.
D'accord, donc tu...
Les vœux sont envoyés indépendamment
à un moment donné,
écoles.
Tu vas recevoir des trucs comme quoi t'es accepté à ton vœu 5 et ton vœu 8. Il faudra que tu te décides si tu les prends ou pas.
Et c'est ça. Et en fait, il y a une période de temps durant laquelle... Il y a soit les formations où on a été accepté dès le début, et dans ce cas-là, et les formations qui nous disent « vous êtes refusé », et puis entre les deux, il y a les formations qui nous disent « vous êtes en attente », c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que vous ne pouvez pas rentrer, mais par contre, vous n'êtes pas dans les 100 premiers.
Et mais ça ne te dit pas si tu es 105e ou...
Ça nous le dit.
Ah d'accord.
Mais ça peut être des trucs, des personnes sur 1000, ils vont être 800e, mais bon, au bout d'une semaine, vu que d'autres personnes auront trouvé d'autres choses intéressantes à faire, ils vont se retrouver à pouvoir être acceptés. Ou au contraire, ça arrivait à un de mes amis l'année dernière, sur les 80 places, il était 81e.
À la fin de tout le processus
À la fin de tout le processus.
Et il était accepté dans, enfin,
il était accepté
d'autres trucs.
Dans d'autres choses qui l'intéressaient plus.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est aussi...
Des choses qui l'intéressaient moins.
Non, c'était pas son premier choix, justement.
D'accord, mais d'accord. Il y avait un de ses choix dans lequel il était 81.
Il était 81e.
Oui, tant qu'on fait quelque chose qui nous intéresse à peu près, c'est déjà pas mal, quoi.
Oui, oui, voilà. Mais du coup, il y a vraiment ce sentiment aussi de...
Surtout que ce qu'on pense qui va nous intéresser, une fois qu'on est sur les bancs de l'école, des fois, il y a un iota et on a aussi le droit de se dire, je pensais qu'être astrophysicien, c'était bien, et en fin de compte, c'est super chiant.
Il y a beaucoup de travail.
Je pensais rester le cul dans mon transat à regarder les étoiles, et en vrai, il faut faire d'autres choses. Donc finalement, on a le droit de changer d'avis, quoi. On peut avoir je pense. Hein,
oui, bien sûr. Et ça, c'est, il y a aucune honte, et c'est pour ça que Parcoursup, c'est pour les terminales, mais c'est aussi pour les L1 en reconversion. C'est-à-dire que si ta formation elle t'intéresse pas et que tu veux refaire, tu dois repasser par Parcoursup. Et cette fois, ils prennent pas tes dossiers de ta première année d'études supérieures, ils reprennent tes dossiers de terminale. Et c'est pour ça aussi que les professeurs nous disent de faire très attention, parce que à la fin de mon semestre, mon dossier va être envoyé, et il y a cette tentation de se dire, si je prends au premier tour, si je trouve quelque chose d'intéressant au premier tour, j'arrête de bosser pour mon deuxième semestre. Et c'est comme ça que typiquement, il y a des élèves qui arrivent dans des grandes écoles et qui ont eu leur bac...
Ric-rac, ouais.
Même pas ric-rac, mais juste au lieu de mention très bien, ils ont 14, voire 13, parce que juste le deuxième semestre, ils ont arrêté de bosser parce qu'ils savaient...
Ah oui, qu'ils étaient acceptés là où ils voulaient. Et quand c'est un peu trop dur, que tu veux te réorienter,
Et là, ça leur retombe dessus, effectivement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment... il y a cette tentation aussi de se dire...
Oui, mais ça, c'est... Il faut jamais baisser les bras. Moi, je pense que...
Jamais baisser les bras,
pour le coup, ça fait... Enfin, c'est peut-être un peu couillon de dire ça, mais je crois qu'on n'est jamais désavantagé à prendre... à faire des efforts. C'est-à-dire que des efforts qu'on fait à un moment, ça paiera toujours plus tard, quelle que soit la forme.
Oui, oui, mais c'est plus quand on a des élèves qui se donnent vraiment à fond, qui sont partis avec 11, qui arrivent à 14 à la fin de leur premier semestre, voire 15-16,
ouais.
Qui arrêtent de sortir, etc. C'est vrai qu'il y a ce truc de... Même moi, après le premier semestre, il y a des fois où je me dis peut-être que je vais me relâcher un peu, quoi. Et je vais me dire, si j'ai un 14 en maths, c'est pas la fin du monde.
C'est jamais la fin du monde. Faut pas se mettre la pression non plus.
Il
faut être sérieux. Il faut avoir, à mon sens, mais ça c'est pas que pour l'école, c'est dans la vie. Il vaut mieux avoir une certaine constance plutôt que travailler par pic et puis être à fond pendant 2 mois et puis ensuite que ce soit dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours,
C'est sûr,
les efforts ils payent toujours, mais pas forcément la manière dont on s'y attend, mais ils payent toujours, donc il faut pas renoncer à faire des efforts. Et deux, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y a des fois où c'est comme ça, on le sent pas, et puis où c'est plus dur. Là, on est dans les mois d'hiver, par exemple. Mm-hmm. Je sais que pour beaucoup de gens que je connais, c'est un peu plus dur que quand on peut sortir avec juste une petite veste sur le dos et qu'il fait pas froid et qu'il fait pas nuit à 16h30, quoi.
Oui, c'est sûr que c'est un juste milieu à trouver, mais bon, ensuite on peut se dire moi je travaille très bien par pic, c'est-à-dire je travaille très bien sur des périodes de 2 mois, et du coup je vais devenir contractuel et je vais prendre des contrats que quand je me dis c'est bon, je peux tout faire sur cette période, quoi. Il y a aussi ce truc de c'est un juste milieu que chacun doit trouver, c'est aussi un juste milieu que on doit trouver selon notre formation, parce que quand on prend typiquement dans les licences, en réalité, il y a des étudiants qui réussissent à s'en tirer en travaillant seulement le mois avant les partiels, ou pendant 1 mois, enfin du coup 2 mois dans l'année, ils travaillent à fond, et le reste du temps, ils sont un peu plus relax, quoi. C'est pas forcément les premiers de leur promo, mais ils réussissent à avoir leur travail.
Personnellement, c'est un conseil que je donnerais à personne, et je pense que le travail qui paye le plus, c'est celui qui est en continu.
Perso, je trouve ça... on sort un peu de Parcoursup là, mais je pense que un avantage que ça a, c'est que on peut demander une diversité de formations, dont des formations qui vont demander un travail énorme à des moments et beaucoup plus réduit. Typiquement, c'est ce que nous disent les BTS. Ils nous disent on a des semaines où concrètement on ne fait quasiment rien et on a besoin de rien faire, et des semaines où par contre là c'est 10 heures de travail par jour, limite, quoi. Donc, je pense que... pourquoi un des points positifs de Parcoursup, c'est aussi que c'est un outil de renseignement utile. Pour le coup, je trouve qu'on a... Enfin, avec Internet, mais la plateforme marche très bien pour découvrir des formations. Ce qu'on voudrait faire et se renseigner sur ces formations concrètement, qu'est-ce qu'on en fait.
Ah, d'accord, il y a des descriptifs de chaque... De chaque classe de fac, alors je sais pas comment on appelle ça, mais chaque section.
C'est ça, avec et des statistiques dessus, quelle était la moyenne des moyennes des élèves qui ont été acceptés, le nombre qui change d'orientation après la L1, démographiquement, enfin il y a plein d'informations qui sont sur la plateforme. Et si la plateforme a un avantage, c'est que c'est pas, il me semble que c'est ce qu'on m'avait dit, à ton époque c'était un petit carnet avec toutes les formations, il fallait chercher.
Très honnêtement, je sais plus. C'était un peu mais enfin j'étais déjà persuadé que j'allais pas nécessairement travailler dans ce pour quoi je me formais, donc j'ai cherché des formations qui me semblaient a priori intéressantes, dans lesquelles je pouvais trouver de l'intérêt. Et voilà, donc j'ai été prise dans une et ça s'est très bien passé. J'aurais peut-être pu être prise dans une autre et ça se serait pas forcément plus mal passé. Hein.
Oui, bien sûr. Enfin, s'il y a un conseil que moi je peux donner et que je donne à mes camarades, c'est de dire que de toute façon, c'est pas Parcoursup qui va jouer notre avenir. Que la majorité, 40% des gens en première année se réorientent, et que la majorité des gens qui font des études pour quelque chose ne travaillent pas dans le domaine pour lequel ils ont étudié. Enfin, je sais pas, toi, est-ce que tu travailles précisément dans ce que t'as bossé après le lycée?
Non, plus du tout.
Plus du tout. Voilà. Et surtout, peut-être que votre premier travail sera dans la lignée de vos études. À 40 ans, puis
on s'en éloigne petit à petit. Hein, et même quand on reste dedans,
on se spécialise.
On se spécialise. Et puis surtout, les pratiques et les techniques évoluent aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que moi, les formations que j'ai faites, c'était en automatisme. Et aujourd'hui, un automate, ça ressemble pas du tout à... Enfin, ça dépend lesquels, mais ça ressemble pas nécessairement à ceux sur lesquels j'ai travaillé, la manière de programmer non plus. Enfin, ça change.
C'est ça. Moi, je prends l'exemple du droit parce que c'est un peu ce pourquoi je vais faire des vœux, en fait. Mais le droit d'aujourd'hui, c'est plus du tout le droit d'il y a 20 ans. Et on l'applique plus forcément de la même manière. Il y a plein de choses qui changent constamment. Même si, on est sur une base qui est déjà un peu fondée, quoi. Donc, c'est sûr, si j'ai un conseil, c'est ne stressez pas trop parce que c'est juste quelques années de votre vie, quoi. C'est juste Parcoursup, mais bon, c'est sûr que il y a des défauts, et si on peut les corriger, bah, typiquement l'opacité de la plateforme, je pense que ce serait pratique pour tout le monde.
C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être que ça ferait moins de stress.
Ça ferait moins de stress. On va passer à une pause musicale. On va écouter Talk Talk de Charlie XCX.
Ah, c'est pas le nom du groupe Talk Talk?
Non.
Il y avait un vieux groupe des années 80 qui s'appelait comme ça.
Peut-être une.
Never in the same room. Now I wanna approach ya, but we've been keeping this a secret. And you're surrounded by friends, and I'm just wondering what they know. I wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd just talk to me. I wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk. Thinking about me, I'm kinda thinking you are. I followed you to the bathroom, but then I felt crazy. I'm feeling like I'm on fire, 'cause we've been keeping this a secret, and all your friends are still here, and I'm just wondering what they know. Wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd just talk to me. I wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd just talk to me. I think you're getting closer, 'cause I'm beginning to get nervous. I wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd talk, talk, wish you'd just talk to me. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me in French, talk to me in Spanish, talk to me in your own made up language. Doesn't matter if I understand it, talk right in my ear. Tell me your secrets and fears. Once you talk to me, I'll talk to you and say, hey, let's get out of here. Shall we go back to my place? Place, place, place.
Voilà, c'était Talk Talk de Charlie XCX, une chanson de mon été 2024. On est toujours sur Radio Cause Commune.
93.1 FM.
Seulement pour cette fois, vous nous écouterez peut-être en replay.
Mais c'est toujours en FM.
Oui, c'est toujours en FM, mais seulement pour cette fois.
Non, cette fois, c'est seulement en FM.
Oui.
Voilà. C'est pas, et oui, vous pouvez pas nous écouter sur Internet, vous pouvez pas nous écouter sur le DAB parce qu'on a des problèmes avec l'Internet.
Voilà, problème technique.
Qui n'en a pas.
Voilà.
Qui n'en a pas eu.
Qui n'en a pas eu, qui n'en aura pas. Voilà, vous écoutez toujours Ouvre-la, une émission de lycéens, donc je l'anime moi, Solal, avec mon père. Voilà. Du coup, pour mon dernier sujet, alors pour faire une petite histoire de ce sujet, parce que ça fait, j'ai eu 2 mois pour préparer l'émission quand même, donc ce sujet, ça faisait 2 mois qui me traînait un peu dans la tête. Et à la base, c'était censé être un sujet sur ce que j'appelle les weird kids, donc les enfants bizarres, les enfants un peu exclus, souvent au fond de la classe ou au contraire tout devant, auxquels on n'hésite pas. On parle pas forcément, qui sont soit très timides, soit au contraire, on sait pas pourquoi ils sont aussi extravertis.
Ceux qu'on appelle les bouffons ou les intellos ?
Non, même pas forcément, pas ceux qui sont intégrés justement à... ceux qui sont un peu, comment on dit, exclus de la vie sociale en fait.
Qui sont seuls ?
Qui sont seuls ou qui
en tout cas... Les solitaires.
Ou qui en tout cas traînent que... c'est un groupe social particulier, un peu éloigné. Et à partir de là, je me suis mis à aller essayer d'interviewer des gens que, assez arbitrairement, moi, je qualifiais d'enfants différents, en fait.
Ils ont dû kiffer. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu peux me parler au micro pour la radio? Parce que je te trouve vachement différent.
Exactement. Ouais. Non, et il se trouve que moi, c'est vrai que en réalité, je suis un peu partie de cette catégorie de d'élèves un peu loin de la masse, on va dire. Je sais pas, c'est très très dur à définir parce qu'il y a pas vraiment de définition. Et justement, et en fait, assez rapidement, je me suis aperçu que en interrogeant même mes amis. C'était très dur de trouver une définition de ce dont on parlait. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des gens qui sont très intégrés en réalité à la vie sociale, qui pourraient traîner avec entre guillemets les populaires, quoi, mais qui juste ne le font pas par choix parce qu'ils trouvent que c'est des gens pas intéressants. Ce qui est très valide, honnêtement. Et puis, des fois, on a des gens qui juste ou n'ont pas conscience d'être exclus socialement, alors que pour le coup, il y a des fois où ils le sont, quoi. Et en fait, assez rapidement, je me rends compte que j'ai rien à sortir de ce que j'ai des gens que j'ai interviewés, c'est-à-dire que...
Eh ben, merci pour ce troisième sujet, Solal.
En fait, non, mais je me rends compte que leur parler à eux, c'était pas forcément intéressant, parce que ben, y avait rien à dire, pour le coup. C'était de eux-mêmes, ils étaient... c'est pas qu'ils étaient exclus socialement, c'est juste qu'ils ne voulaient pas parler avec certaines personnes. Et que souvent, c'est une démarche qui est beaucoup plus volontaire et individuelle que véritablement sociale. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils le percevaient. Et en fait, et bon, du coup, moi, je suis allé retourner réviser ma SES. Et il se trouve qu'on parle structure sociale en SES. Et je trouvais que, en fait, l'analyse de classe sociale sur ça, elle était assez intéressante. Voir, en fait, s'il y avait... parce que, alors, le chapitre de SES, de sociologie, sur les classes sociales, il parle de la pertinence des classes sociales. C'est-à-dire qu'on va voir des facteurs qui disent si l'analyse en classe sociale de Karl Marx et de Max Weber sont encore pertinentes aujourd'hui. Et il se trouve que bah, c'est assez... on est sur le même débat, en fait, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que un de ces facteurs, typiquement, c'est les différences interclasses. C'est-à-dire que si on prend la classe enfant bizarre et la classe moyenne, la classe normale, effectivement, il y a des différences de mode de vie. Donc, où est-ce qu'ils vont se réunir, les sujets dont ils vont parler, les sujets... bah, tout, en fait, enfin, de leur vie... Mais un autre facteur, c'est les distances intra-classes, c'est-à-dire qu'au sein de ces deux classes, la diversité des comportements. Et il se trouve que ce soit chez les personnes entre guillemets normales, ben en fait les gens sont très très divers, il y a une grande diversité d'expériences, et même dans la classe enfant bizarre, et ben c'est pareil, en fait c'est des gens qui sont tous uniques et qui ont des modes de vie qui diffèrent aussi, des cultures différentes, et du coup on a déjà ces deux facteurs-là qui rentrent en collision, c'est-à-dire que d'un côté il y a une grande séparation. Il y a une exclusion sociale, un peu, qu'elle soit volontaire, qu'elle soit du groupe majoritaire ou du groupe minoritaire. Mais à l'intérieur de ces groupes, en fait, il y a une très grosse diversité aussi qui fait que c'est pas forcément pertinent. Il y a aussi typiquement le sentiment d'appartenance, qu'on appelle la conscience de classe chez Marx, où là, il y en a pas du tout. C'est-à-dire que les enfants... bizarre, j'arrête pas de dire les enfants alors qu'ils ont 16 ans, c'est un peu horrible. Ils en ont pas forcément conscience, ou en tout cas ils s'identifient pas à ça, et c'est pire, j'ai envie de dire, dans la norme. C'est-à-dire, alors, un truc que j'ai remarqué, parce que je suis allé aussi interroger juste des gens normaux pour leur demander si c'est normaux. C'est très bizarre la manière dont je parle, je trouve.
Non, mais c'est pas grave, c'est les catégories que t'as fait, donc continue voilà, à les... Tiens-les. Je sais que si. il faut considérer ces qualificatifs non pas à ce qui rapporte dans l'état d'esprit, mais simplement à ce à quoi ils se rapportent, que tu viens de définir
c'est ça.
Actuellement, enfin à l'instant.
Et en fait, et je me suis aperçu d'un truc, c'est que chez les notamment plus une personne était entre guillemets populaire, moi dans mon sens populaire, c'est qu'il y a de très nombreux liens sociaux, quoi. Plus une personne est populaire, plus elle est persuadée d'être très très différente et d'être un peu exclue socialement aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce récit que j'ai un peu... Perso, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de sentiment de transfuge de classe où tout le monde est persuadé que parce qu'il a été exclu socialement une fois dans sa vie, il fait partie d'une catégorie marginalisée. C'est-à-dire que j'ai... Personne à qui j'ai parlé n'avait pas une histoire de « Ah oui, moi, une fois, j'ai été exclu socialement, donc je sais ce que ça fait d'être bizarre, etc. » Et aujourd'hui, et qui ont vraiment un sentiment, en fait, de ne pas être populaire et d'être exclu
Mais est-ce qu'il y a vraiment une normalité? Est-ce qu'on court pas après une chimère?
Et bah justement, et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que, ok, il n'y a pas une normalité, mais ça, je le savais, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui se font exclure socialement.
Oui.
Et quand tout le monde est persuadé d'être exclu socialement, comment est-ce que quand on est véritablement exclu socialement, c'est des gens qui vont être persuadés, il y a eu deux ou trois personnes qui m'ont dit, non, mais j'ai que un groupe de 10 amis.
Ouais, 10 potes, ça va, c'est déjà pas mal.
10 potes. Voilà, alors qu'il y a des gens qui concrètement ont une personne ou deux, et qui ou des gens qui c'est moi, l'exemple qui me fait un peu rire, c'est des gens qui peuvent s'asseoir où ils veulent à la cantine et personne leur posera de questions, alors que moi avec mon groupe de potes, ça nous est déjà arrivé qu'on nous demande de nous déplacer à la cantine, quoi. Donc vraiment le truc d'exclusion sociale où comme aujourd'hui tout le monde est persuadé d'être de la classe moyenne. Et bah là, tout le monde est persuadé d'être un peu exclu socialement, mais en fait, ça va.
Après, ça fait longtemps que... Bon, je vais plus parler de la fiction, mais dans la fiction, ça fait longtemps que ce thème est abordé. Et il me semble que ça... Dans les années 2000, ça a vachement évolué, 2000-2010. C'est-à-dire que maintenant, on accepte... on peut être cool... en fait, dans son sujet de prédilection de niche, voilà.
Oui.
Donc, il y a celui qui fait du sport, il y a le groupe des sportifs, et puis il y a le groupe de ceux qui lisent des mangas, et puis on peut... il me semble que c'était pas forcément le cas avant, mais on peut un midi être avec le groupe de ceux qui lisent des mangas parce qu'on aime bien lire des mangas, et puis le midi suivant taper un foot parce qu'on aime bien taper un foot.
Alors c'est vrai, mais il y a eu quand même, je trouve, ce truc de d'exclusion sociale de certaines personnes, quoi, vraiment. De il y a une nouvelle légitimité, c'est-à-dire que lire des mangas ou jouer aux jeux vidéo, c'est plus la honte, mais encore aujourd'hui, c'est certains mangas, c'est aussi certains sports. Et en fait, il y a toujours des losers. Même si c'est devenu la mode d'être un loser, il y a toujours, j'ai envie de dire, des vrais losers qui, pour le coup, se font exclure, quoi. Voilà. Bon, il y a le générique qui sonne, de toute façon.
Qui se font, ouais, mais puis c'est dommage. Donc, si vous croisez quelqu'un qui n'a pas de pote, vous pouvez essayer d'aller le découvrir.
Allez lui parler, voilà. Ah oui.
Il n'est pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un de naze. Par contre, très rapidement, si vous casse les pieds et que c'est quelqu'un de naze,
voilà, c'est ça.
Faut pas se fatiguer avec.
Voilà. Bon, on se voit le mois.
On a le temps, il est long, le générique, il reste 3 minutes. Bah oui, donc il n'y a pas de souci. On peut dire aux auditeurs que ils peuvent venir à la radio pour découvrir comment on fait de la radio sur Cause Commune.
C'est ça, le premier vendredi du mois, c'est ça?
Le premier vendredi de chaque mois, au 22 rue Bernard Dimet, à Paris, c'est Porte de Saint-Ouen.
Voilà, le prochain, ce sera le vendredi 6.
Et ensemble. On sera très contents de vous voir, chers auditeurs, de vous rencontrer, de parler avec vous.
Voilà, j'essaierai de venir d'ailleurs. Merci à toi déjà d'animer avec moi l'émission. Merci à Elias qui est à la régie.
Et qui nous fait des grands signes, merci à toi.
Merci.
Elias.
Et puis, on se dit à dimanche, au prochain dernier dimanche du mois. Ce sera le 22 février.
Le 22 février, et oui, parce qu'il y a 28 jours en février.
Il y a 28 jours, du coup ça fait qu'après ce sera le premier. Voilà, donc on se dit à la prochaine. On aura parlé du coup, ministre...
tu vas encore parler des ministres de Macron? Non, il y en a marre là.
Cette fois, on a parlé du coup Parcoursup, ministre.
Parce qu'à la rentrée, tu nous as parlé d'Elisabeth Borne.
Ah ben c'est sûr, il n'y a pas... Il y a tellement de choses à dire.
Ah, ensuite, on a changé de ministre et là, tu viens de nous en reparler. Ouais,
voilà,
c'est bon.
Si entre temps, on n'a pas changé de ministre, je promets, je ne vous en parle pas.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Solal, pour ce moment passé en ta compagnie.
Voilà, merci à toi. Et puis, à la prochaine sur Radio Cause Commune, FM 93.1. Et on espère la prochaine fois sur Internet et en DAB.
À bientôt. Merci beaucoup.